RCF.
J'irai donc ce soir méditer sur ma terrasse. Une feuille qui tombe dans la nuit, est-ce un souvenir qui veut l'oubli ? Une petite souffrance qu'on détache comme une fleur fanée, est-ce vraiment la preuve que le cœur s'apaise ? Au niveau du tilleul qui caresse la terrasse, près du murmure des branches, j'oublie ma tâche humaine et les soucis au jour. La nuit protège de sa solitude les buissons et les arbres. Une unité, un équilibre se pose sur la vie endormie. La lumière douce et la nuit mêlée, réconciliée, veille sur le jardin qui rêve. Ce sont les mots du philosophe Gaston Bachelard dans son livre « Le droit de rêver ». Il est essentiel de redonner aujourd'hui toute sa place à la rêverie, de nous accorder à tous un droit de rêver. La rêverie peut-elle nourrir et stimuler la créativité ? Peut-elle nous ancrer dans le monde sensible ? En quel sens peut-elle éveiller notre intelligence, notre créativité, nous invitant à agir et à habiter le monde de manière renouvelée ? Pour découvrir l'univers philosophique de Gaston Bachelard, j'accueille aujourd'hui avec un immense bonheur Jean-Philippe Pierron. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Sarah Brunel.
Alors vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Bourgogne, vous êtes aussi un spécialiste de l'œuvre de Gaston Bachelard. Mais surtout vous nous invitez aujourd'hui à penser dans le sillage de Bachelard, à ouvrir les yeux sur le monde, à déployer notre intelligence du réel en puisant à la source bachelardienne. Vous avez publié plusieurs ouvrages très personnels, tout récemment « Jeu est un nous » enquête sur nos interdépendances avec le vivant. Alors je vous invite aujourd'hui à découvrir « Le droit de rêver », le titre d'un livre posthume de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, qui est né à Bar-sur-Aube en 1884, qui a eu un parcours assez atypique, qui fut professeur de chimie et de physique, qui ensuite enseigna la philosophie comme vous, je crois, à l'université de Dijon, et qui occupa la chaire ensuite d'histoire et de philosophie des sciences à la Sorbonne. Et il meurt à Paris le 16 octobre 1962. Alors, en quelques mots, Jean-Philippe Pierron, qui est Bachelard pour vous, personnellement ?
C'est le penseur qui ne néglige ni la rigueur du concept, ni l'exactitude du concept, ni la rectitude de l'image. Hein, on dit, il y a eu un petit recueil qui est intitulé « Bachelard, l'homme du poème et du théorème ». Il pense, Bachelard, qu'il peut y avoir une vérité scientifique, bien évidemment, c'est comme ça qu'on a connu ses travaux. Et en même temps, il pense qu'il y a une vérité de l'image, avec tout cet abîme hein, qui est que, alors, en quel sens une image poétique peut-elle être vraie hein. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que ce penseur donc, articule imaginaire et rationalité. Il les articule plus qu'il ne les oppose, même si, effectivement, les deux versants de son œuvre donnent parfois l'impression d'une dichotomie.
Ce que vous désignez comme l'homme du poème et l'homme du théorème, hein, voilà. Celui du rationalisme appliqué et celui de la poésie, des éléments, de la rêverie.
C'est ça. Alors qu'en fait, ce qui m'intéresse vraiment chez ce penseur, c'est sa très grande à la fois attention et curiosité autour de ce qu'on pourrait appeler la créativité psychique. Laquelle créativité psychique alors se déploie depuis les dessins d'enfants, disant d'ailleurs et invitant les philosophes à revenir à leurs dessins d'enfants, c'est-à-dire en fait ces formes d'expression première non contrôlées, non corsetées en fait par les formes socialement valorisées de ce qui serait acceptable ou pas. Et donc cette créativité psychique, il en voit des sommets dans bien sûr l'activité scientifique, qui est un lieu où la créativité humaine se déploie, se stylise, y invente des formes de questionnement et de conceptualisation incroyables. Il la voit dans le poétique, au sens du poème, hein, mais il le voit aussi dans les expressions plastiques des artistes de son temps.
Alors, il existe pour Bachelard un espace onirique. Hein, c'est le titre d'un chapitre du droit de rêver, enfin d'une partie. Mmh. Alors, dans quel espace vivent nos rêves ? Quel est le dynamisme de la vie nocturne ? Ce sont les questions que Bachelard lui-même pose. Comment faire droit aux rêves ? Quelle place lui accorder dans nos vies ?
Alors là, on touche le cœur hein, de sa philosophie et le parcours qu'il va faire pour essayer de rendre compte, effectivement, de ce qui se joue autour de la question en fait, du rêve. Bachelard prend au sérieux le rêve. Hein. Alors, comme beaucoup de ses contemporains, il le fait en étant attentif à ce que la psychanalyse va apprendre. Mais la question, c'est quelle psychanalyse ? Et donc, il va commencer par Freud, et en même temps, qui montre comment le rêve est une puissance d'identification, et engageant et mobilisant notre subjectivité dans sa dimension pulsionnelle, mais en même temps, au risque parfois de réduire le rêve à du symptomatique, hein, et donc de rattacher la puissance d'image du rêve essentiellement à la biographie pathologique en fait du sujet. On ne peut pas oublier que la psychanalyse est aussi une forme de réflexion sur la pathologie. Hein. Et donc quand on dit il quittera vite, enfin, finalement, Freud pour Jung, en cherchant là aussi les liens profonds entre l'image, la matérialité de l'image, parce que ces images elles ont une consistante, et la culture, pour aller progressivement sur ce qu'il appellera une poétique de la rêverie. Et donc le rêve, il est, je pense qu'il est, il s'agit ni de le, c'est pas un déni du réel. Hein. Ce qui est assez étonnant, c'est quand Bachelard pense le rêve, alors, à l'exception du texte que vous venez de choisir, hein, qui est un texte qui porte effectivement sur la question de la spatialité du rêve nocturne, dont il montre qu'il y a une espèce de tension, hein, entre la première partie de la nuit et la seconde partie, autrement dit, à la fois des sortes de quelque chose d'expérience abyssale, d'un sujet qui s'y perd, et de l'autre côté, des puissances de verticalisation au moment du réveil. Enfin, donc, il a une lecture un peu dynamique de ce que c'est que l'expérience du rêve, mais la plupart du temps, quand Bachelard pense le rêve, il pense le rêve éveillé. Ce qui peut être assez surprenant, alors c'est certes les techniques du rêve éveillé de certains de ses contemporains, là aussi des psychiatres, parce qu'il a beaucoup travaillé finalement, c'est un aspect de son œuvre qu'on connaît moins, mais avec les psychiatres de son temps, donc dans une perspective de psychiatrie phénoménologique, finalement il est un peu marginal, mais il a une vraie consistance en fait de cet aspect. Mais donc le rêve qui l'intéresse, c'est le rêve éveillé. Et donc le rêve, c'est pas la rêvasserie qu'on dénigre comme étant une fuite du réel. Hein.
Oui, il y a cette distinction entre le rêve et la rêverie aussi.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se joue dans cette distinction ?
Alors, ce qui se joue, c'est cette idée que on peut cultiver cette forme particulière, comme l'a fait le surréalisme pour une part. En tout cas, c'est pourquoi le surréalisme, à un moment donné, a trouvé chez Bachelard peut-être son théoricien, en tout cas, a cherché à le trouver. En fait, on peut trouver dans le... Donc là où le rêve peut être décrit comme une sorte de production du psychisme nocturne échappant au contrôle relatif en tous les cas de la vie psychique consciente, ce qui intéresse Bachelard dans la rêverie, c'est cette forme d'attention flottante en fait qui est donnée dans la rêverie, que permet la poésie notamment, hein, parce que vivre une image poétique, c'est précisément mettre un tout petit peu en suspens, dirait-on, à la manière un peu de la phénoménologie, mettre un peu en suspens la question en fait du monde et son souci utilitaire, pour se concentrer sur ce qui se donne dans la fulgurance de l'image. Et donc la rêverie, enfin cultiver la rêverie, c'est cultiver cette forme de présence intensifiante de l'image que donne un poème, mais que pourra aussi donner une œuvre plastique, que ce soit une gravure, une peinture ou une sculpture.
Alors ça, c'est la puissance créatrice potentielle de cette figure du rêveur éveillé. L'artiste est-il à sa manière un rêveur éveillé ?
Oui.
Puisse-t-il dans cette expérience-là ?
Oui. Alors c'est sûr que pour pouvoir dire ça, Bon, d'abord, c'est intéressant que vous disiez l'artiste, là aussi, parce que ça force à, si je puis dire, à enlever sur Bachelard les images qu'on a, comment dire, plaquées, hein, effectivement, en fait, une espèce de figure un peu image d'Épinal, d'homme solitaire et essentiellement consacré soit à la Cité des Sciences, soit au monde des poètes, parce qu'effectivement, il fréquente aussi le monde des artistes. Et donc, ça questionne qu'est-ce qui se passe quand nous nous regardons devant une image esthétique. Hein. Et donc, les arts plastiques, comme les poèmes, effectivement, sont des suscitations, dans l'instant, de notre capacité de mise en présence à ce qui peut se donner.
Prenons le temps de la rêverie grâce à une pause musicale, Maurice Ravel, Gaspard de la nuit, interprété au piano par Claudio Arao.
Thank you. RCF, Sarah Brunel.
Rêver, n'est-ce pas laisser advenir une autre expérience du temps ? Une autre expérience du temps, tout d'abord le temps du philosophe. Est-ce la joie de méditer, comme l'écrivait Bachelard, pour bien prendre conscience que la méditation est un acte, l'acte philosophique ? Comment un philosophe peut-il dire quelque chose sur cette temporalité à partir du rêve ? N'est-ce pas à rebours de l'exercice de la rationalité lucide, maître d'elle-même, qui contrôle
oui.
le flux de ses pensées.
Oui, alors, dans le livre, en fait, donc ce recueil d'articles s'appelle le droit de rêver. La troisième partie dont est extraite finalement cette formule, elle est consacrée à mettre en valeur la dimension en fait de métaphysique du temps. Que porte la philosophie de Bachelard, et cette métaphysique du temps, c'est une métaphysique de ce point de vue-là en critique ou en regard critique à l'égard de celle de Bergson, et qui met l'accent effectivement sur la dimension en fait de l'instant. Et donc pour pouvoir faire ça, effectivement, ça suppose chez il y aurait tout un travail, je ne veux pas déployer tout ça, mais il y a une partie du travail que fait Bachelard qui est de se demander comment nous restituer via des exercices, de cette façon, il y a un côté un peu stoïcien, et d'ailleurs il les cite, les stoïciens, il y a des formes d'exercices de soi.
Ou exercices spirituels ?
Presque, mais je crois que ce n'est pas complètement faux. Enfin, en tout cas, il ne va pas jusqu'à mot spirituel, mais en tout cas, il y a des exercices au sens où, effectivement, l'exercice spirituel au sens d'un pierre ado, mais qui est, finalement, on s'entraîne, quoi. On peut s'entraîner à rêver, à bien rêver. Et pour ça, il y a un travail, il s'agit de s'émonder à l'égard de tout ce qui, de cette façon, contrôle la rêverie, ce qu'il appelle les cadres sociaux de la durée, le contexte social, en fait, qui installe nos rêveries dans une temporalité. Bref, il y a un travail d'exercice de soi. Et ces exercices de soi, ils supposent effectivement la valorisation de la méditation. Et dans un de ses textes, Bachelard se situe de ce point de vue-là à rebours de cette rationalité lumineuse. On vient d'entendre une musique qui met l'accent sur l'importance en fait de la nuit. Il y a des philosophes du jour et il y a des philosophies de la nuit. De certaine façon, il y a chez Bachelard une dimension il y a la dimension de la lucidité, donc de mettre en lumière que fait la rationalité scientifique, mais il y a une méditation, contemplation de l'expérience de la nuit. Et les deux textes qu'on a lus en fait disent ça d'une certaine façon. Et donc pour faire ça, effectivement, Bachelard met en valeur la dimension de la méditation en disant ma philosophie, c'est une philosophie effectivement de l'attention à ce qui se donne dans l'instant de ce que je médite, plutôt qu'une philosophie qui, à distance, doute. Et donc il se situe de ce point de vue-là à l'égard effectivement de la pensée de Descartes et donc d'un sujet qui arbitre à partir de son propre geste initial, fondateur d'une manière à la fois de penser et d'être au monde. Donc effectivement, il y a une prise de distance à l'égard de ce sujet cartésien pour...
C'est le monde retrouvé aussi.
Oui.
Et cela nous ouvre à la profondeur du monde, à ce qui nous dynamise. Et c'est aussi une autre manière de vivre un nouveau temps, ce qu'il nomme le temps vertical, ouvrir son propre temps, s'habituer, dit-il, à ne pas référer son temps propre au temps des autres, au temps des choses. N'est-ce pas, effectivement, comme vous le dites, une leçon de sagesse ou quelque chose comme un sentiment d'éternité aussi qui nous invite à penser et à vivre aussi, Gaston Bachelard.
Oui, en tout cas, sans doute un sentiment de l'urgence de l'instant, d'année. Sur la question de l'éternité, il est sans doute il serait sans doute plus prudent, il y a un matérialisme bachelardien de ce point de vue. Mais oui, de fait, effectivement, l'instant nous verticalise. Et donc, cette question de la verticalité est là, parce qu'il y a
verticalité, c'est-à-dire on s'ancre par rapport à l'horizontale qui est la fuite du temps, en fait,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est exactement. C'est ce qu'il va retrouver notamment dans les gravures de Flocon, et notamment aussi dans ses lectures de Balzac. Cette idée que la verticalité, c'est effectivement nous réinstaller dans notre assise, si je puis dire, de sujet, qui effectivement à la fois a la conscience de son là, de son de son sol et en même temps de ce qu'il élève. Hein. Donc la question du schème de la verticalité, c'est la question de l'homme debout, hein, mais de l'homme debout reconnu dans sa puissance, effectivement, de sujet capable. Hein. Alors, il ne dit pas capable, c'est déjà trop pour lui, ce n'est pas un moraliste. Hein, mais effectivement, les images verticalisantes, elles sont très, très nombreuses chez Bachelard, elles ont une signification posturale, hein, parce qu'effectivement, qu'est-ce que signifie pour nous être debout? Mais ensuite, il les traque, ces images verticales, eh bien, chez les poètes, parce que finalement, pourquoi lit-on la poésie? Pourquoi fréquente-t-on les artistes si c'est pas simplement pour des opérations mondaines? Si on se laisse traverser par les images des poètes ou par celles que nous offrent les plasticiens, c'est pour être restauré dans notre verticalité de sujet se dit je suis de là, prêt à aller là-bas. Hein. Et cette question nos projets sont toujours des là-bas, il les questionne, parce que finalement, je pense qu'il y a une philosophie de la liberté qui ne se dit pas comme ça, il est beaucoup plus prudent à l'égard de ses concepts, c'est pas un philosophe de la morale, ni un philosophe politique, mais c'est malgré tout un moraliste au sens du 17e, de ce point de vue.
C'est l'homme dans son entièreté intégrale qu'il nous invite à repenser, l'homme des 24 heures, hein, l'homme du jour, mais aussi l'homme de la nuit, hein, comme le disait Bachelard lui-même. Donc. Et il écrit « La nuit, on n'est pas rationaliste, on ne dort pas avec des équations dans la tête », effectivement. Donc, il y a cette opposition radicale qui pourrait être clivante, mais en fait, chez Bachelard, c'est tout un rythme aussi. C'est la question du rythme, ce qui ne conduit pas à une fuite du monde, mais au contraire à être bien là, à être bien présent.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un concept très important chez Bachelard, en fait, qui est le concept de rythme-analyse, qui est un concept intéressant pour effectivement réinterroger comment nous vivons notre rapport au temps. Et une façon d'en rendre compte, c'est peut-être d'abord d'opposer la cadence et le rythme. Hein, là où on peut définir une approche métronomique du temps à la manière d'une description mécanique, hein, et presque mathématique, enfin la cadence, hein, qui peut être définie a priori, hein, le rythme, lui, n'est qu'à être vécu. Et donc, ce qu'il appelle rythme-analyse, c'est l'attention qu'il va porter sur comment, lorsque nous vivons le temps, eh bien, de cette façon, nous pouvons être les acteurs de l'intensité de ce que nous y vivons par la pluralité des rythmes que nous y déployons. Et donc, dans ces temps comme les nôtres, où nous sommes parfois épuisés par ce que le sociologue Hartmut Rosa appellerait la société de l'accélération, bref, une espèce de temporalité sociale qui nous malmène parce que précisément elle nous emporte dans une cadence infernale, eh bien la réponse bachelardienne, en ce sens-là une sagesse, effectivement, c'est de nous dire prête attention à la question de la pluralité des rythmes qui font ta vie, pour effectivement être restauré dans ta puissance de sujet par la rêverie que permettra cette rythmique. Donc ça veut dire comment nous organisons notre temps de journée, notre temps de semaine. Hein, ça peut être une décision poétique aux effets éthiques. Hein. Autrement dit, il y a de l'éthique indirecte de ce point de vue.
Oui, ce que la lecture des poètes, l'expérience aussi de la peinture, hein, qui consiste à explorer, saisir aussi un ensemble d'images par lequel l'imagination de l'artiste fait naître aussi en nous cette perception-là. C'est identifier aussi pour Bachelard l'impulsion créatrice d'un artiste, je pense à Claude Monet, à Chagall dans Le droit de rêver, mais aussi à des poètes comme Rimbaud ou Éluard. Quelle est l'originalité de sa lecture, de son rapport, on pourrait dire, ici à l'art?
Bachelard, en fait, c'est intéressant cette formule. Quel est son rapport à l'art? Donc, je pense que c'est une relation plus qu'un rapport. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est ni dans la distance objective et extérieure qui voudrait expliquer le geste de l'artiste par son contexte, comme pourrait le faire l'historien de l'art, ou bien l'explication de l'œuvre par sa biographie, comme pourrait le faire une psychanalyse, en fait, de la genèse de l'œuvre d'art. Je pense à son texte sur Rimbaud. Hein. On peut expliquer la poésie de Rimbaud par les relations difficiles avec son entourage familial et sa mère, mais Au-delà de ça, pour Bachelard, il s'agit de vivre l'intensité de l'image avec celui qui la propose. Et donc, pour cela, il s'agit moins de faire un commentaire que, finalement, de se laisser investir par les matières qu'ont travaillées les artistes avec lesquels on va se laisser toucher. Autrement dit, se lire de et avec l'œuvre qu'on va travailler. Donc, ni dans la nostalgie, ni dans ce qui va arriver tout à l'heure, mais dans l'instant de la contemplation.
En ces temps dominés par la rationalité instrumentale, par le contrôle, l'évaluation tout azimut du vécu, reconnaître la place des puissances de l'imagination est devenue tâche urgente pour habiter autrement notre monde. Jean-Philippe Hiéron, c'est un constat que vous proposez dans votre dernier livre, « Je est un nous », enquête sur nos interdépendances avec le vivant. Le titre d'une de vos méditations est « Bachelard et le Valage, une éco-poétique ». Et vous analysez ces dissonances qui sont les nôtres aujourd'hui avec la nature, cet aveuglement ou cette oblitération, finalement, paradoxalement, de la matière, du monde sensible. Pourriez-vous revenir avec nous sur ce prolongement, pourrait-on dire, contemporain de l'analyse de Bachelard ?
Oui, on a évoqué tout à l'heure, la question du matérialisme de Bachelard. Hein. Et donc, c'est compliqué, cette histoire, parce qu'en fait, il construit un matérialisme à la fois rationnel lorsqu'il fait sa philosophie des sciences et il construit de l'autre côté ce qu'il appelle une imagination matérielle lorsqu'il fait une poétique. Et donc, ce matérialisme, ce n'est pas tout à fait le matérialisme marxiste, mais c'est effectivement la tension, la puissance évocatrice en fait, des matières. Alors, on pourrait dire... Enfin, il y a d'ailleurs des textes de Bachelard, je crois que c'est dans La Terre et les rêveries de la volonté, il dit ce qui caractérise notre temps, alors il écrit ça avant les années 60, hein, du millénaire précédent, il dit nous sommes à l'époque de ce qu'il appelle les matières administrées. Parce qu'effectivement, pour nous, les matières sont devenues des flux à gérer. L'eau se gère en mètres cubes, les terres rares, on cherche à se demander où est-ce qu'elles sont encore accessibles, etc. etc. Les champs se racontent en mètres carrés ou en hectares. Et donc, on oublie, finalement, je dis parfois à propos de l'eau, la source ou la ressource, mais d'une certaine façon, on oublie le caractère originaire de notre rapport à la matière sous l'administration extractiviste qui veut contrôler ces dernières. Et donc, lorsque Bachelard construit ce qu'on peut appeler une éco-poétique, bien ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, pour nous, les matières ne sont pas simplement que des matériaux à exploiter ou à extraire, mais il y a des connivences extrêmement intimes que nous pouvons vivre avec elles qui nous intensifient. Ça peut paraître très compliqué, mais en fait les choses sont très très simples. Lorsque je me promène sur un bord de chemin et que la texture de celui-ci sous mon pas fait qu'effectivement, je vais dire c'est un chemin qui est agréable à marcher, hein. Lorsque je vais être attentif à un caillou, à un brin d'herbe, soudain, le milieu n'est plus un espace géométrique que je pourrais traverser de l'extérieur, guidé par un GPS, hein, mais effectivement, il est retrouvé dans ses partialités, des partialités qui sont vécues et investies. Et donc l'éco-poétique, elle nous dit ça. Elle nous dit que pour moi, être là, être de là, c'est pas forcément faire l'exaltation du terroir, hein, mais c'est effectivement être attentif à ces partialités qui m'ont aidé à me préciser comme sujet et sans lesquelles je ne saurais être celui que je suis, quel que soit d'ailleurs l'endroit que ça concerne. Hein.
Ce que vous dites nous conduit également à réfléchir sur... la question du langage. La langue de Bachelard est une langue très riche, très, très fluide, très incarnée, hein, qui nous ouvre à des perceptions, véritablement. Or, notre langage aujourd'hui est rattrapé par une pensée utilitaire, abstraite, peut-être de plus en plus abstraite, avec de nombreuses, une certaine mathématisation, évaluation, statistique, etc. Et c'est donc par le langage aussi la question de l'humanité finalement qui se joue. Quelle place accorder au langage chez Bachelard? Quel est son langage et en quel sens il enrichit notre rapport au langage, enfin notre
utilisation du langage? C'est une question qui est immense parce qu'elle traverse diversement, mais elle traverse toute son œuvre. La première méditation qu'il fait sur le langage, c'est sur la nature du langage scientifique, où il montre, d'une certaine façon, il y a un texte, je crois que c'est dans le matérialisme rationnel qui dit ça, je crois, hein, il dit, en science, il parle des catégories de la chimie, le langage est en état de révolution permanente, c'est-à-dire qu'en fait, comment inventer des catégories qui... soit à la hauteur de la réalité qu'on décrit lorsqu'on est un physicien ou un chimiste. C'est qu'en fait, ne pas être prisonnier des stéréotypes qui habitent nos langues. Et cette question-là, il la retrouve lorsqu'il travaille en fait sur la poésie, en disant qu'est-ce que fait le poète ? Eh bien, il y a aussi une dimension en fait d'insurrection, de puissance, de surrection, que le poète active dans le langage en retrouvant dans le langage la capacité de faire sonner des images qui jusque-là, enfin, qui sans lui, de cette façon, seraient mortes. C'est pour ça qu'il ne parle pas tellement de métaphores, Bachelard, hein. C'est des figures trop déjà engoncées dans de la rhétorique.
Trop artificielles, trop peut-être. Artificielles. J'ai une phrase en mémoire du Droit de rêver où il dit à propos de Rilke que le langage nous révèle à nous-mêmes.
C'est ça. Et donc, il s'agit en fait pour Bachelard de retrouver ce point d'émergence à partir duquel nous disons au monde à partir des mots qui sont eux-mêmes en émergence. Et donc le travail du poétique, c'est de retrouver le nom, comment dire, le nom propre sous le nom commun, si on pourrait, pour le dire comme ça, dans une formule un peu abrégée. Donc sur la dimension natale, en fait, du langage.
Juste pour terminer, je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit également un petit ouvrage, Les rêveries de Gaston Bachelard, dans la collection Les petits Platons pour les enfants. Juste en deux mots, pourquoi faire découvrir Bachelard aux enfants? Qu'est-ce qu'il peut leur apporter?
Eh bien, justement, cette curiosité, le caractère atypique de sa vie, et en même temps cette idée qu'il y a de la joie à penser, que penser est une fête, qu'on soit scientifique ou qu'on soit poète.
Merci infiniment, Jean-Philippe Pierron. Prenons tous ensemble le temps de rêver, de prendre notre temps, de discerner les moments essentiels à notre propre rythme de vie. Le droit de rêver et le bonheur de lire Bachelard. Un grand merci également à Alexia Stelé, aujourd'hui à la réalisation technique.
Merci.